Bonjour à tous. Vous m'entendez? Ouais. Okay. Alors, je vais commencer par vous poser quelques questions. Par lever de main, est-ce que, qui parmi vous a déjà eu une punition à l'école primaire où vous deviez recopier des lignes et des lignes? Il y a déjà des mains qui se lèvent. Oula! Ah oui, ok. D'accord. Bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a des anciens cancres ou des anciens. Les gens qui font des bêtises, un peu. Alors, autre question, est-ce que, toujours par levée de main, est-ce que certains. Est-ce que vous avez déjà eu à apprendre à l'école des poésies? Oui, il y en a beaucoup plus de mains, là. Alors, personnellement, c'était pour moi une angoisse terrible, parce que, d'une part, j'aimais jamais apprendre les choses par cœur. Je suis pas littéraire, je suis plus un matheux. Et j'aime pas ça, apprendre les choses par cœur. Et d'autre part, j'avais la phobie de parler aux gens, de parler devant les gens. Ça s'est arrangé depuis. Merci Seigneur. C'est pas grâce à moi. Excusez-moi juste un instant. Voilà, ça s'est arrangé depuis, heureusement. Alors parmi ceux qui ont levé la main, est-ce que certains se souviennent encore des lignes qu'ils ont recopiées ou des poésies qu'ils ont dû. Oui, Dolores, tu t'en souviens? Il y en a quelques-uns, d'accord, vous avez bonne mémoire. Alors, rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous demander de les réciter ici. Et parmi ceux qui se souviennent de ces poésies ou de ces lignes qu'ils ont écrites, souvent sous la contrainte, est-ce que ça vous a marqué particulièrement pour que vous vous en souveniez? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a une importance dans votre vie quotidienne? Oui, d'accord.
J'étais souvent punie, moi.
Ah oui, forcément. Mais est-ce que ça apporte quelque chose aujourd'hui au quotidien?
Ça apporte de se reprendre dans certaines choses.
D'accord. Ok. Alors pour ma part, je me souviens encore de quelques versets de ce poème de Pierre de Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait été close, etc., etc. Par contre, me souvenir de ça n'apporte rien dans mon quotidien. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien parce que dans notre vie chrétienne, nous avons appris, peut-être, et apprenons encore des choses par cœur. On apprend des cantiques, on apprend des cantiques anciens ou nouveaux, on apprend aussi des prières, on apprend aussi des versets. Est-ce que nous comprenons toujours ce que nous connaissons par cœur? Est-ce que ce sont des choses qui nous marquent? Est-ce que ce sont des choses qui ont de la valeur ajoutée dans notre quotidien? On pense souvent que c'est le cas. Parce que c'est, on pensera souvent que c'est le cas parce que c'est la parole de Dieu, c'est la parole vivante que nous mémorisons. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un passage dans les Évangiles qui est peut-être un des passages les plus connus par cœur avec Jean 3,16. Alors personnellement, pour ma part, j'ai grandi à Madagascar, donc le malgache est ma langue maternelle. Et je pourrais me vanter devant vous que je connais ce passage en malgache et en français. Je vais vous épargner le malgache comme ça parce que ça ne va rien vous apporter du tout. Mais juste pour vous dire que c'est un passage très, très connu. Alors vous l'avez peut-être deviné, peut-être pas. Le passage que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Donc il traite d'une prière. Pourrait-on plutôt parler d'un modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples? Et ce matin, on va voir la première partie de cette prière. Donc ça se trouve dans Matthieu au chapitre 6, et nous allons lire les versets 9 et 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Peut-être qu'en lisant, vous avez aussi répété ça dans votre tête, puisque vous le connaissez sûrement. Certains n'avaient peut-être même pas besoin de lire pour connaître par cœur ce passage. Alors cette prière que le Seigneur a enseignée aux disciples, elle fait partie souvent de la liturgie, donc le déroulé du culte, dans de nombreuses églises de différentes dénominations, que ce soit les catholiques, les protestants réformés, les anglicans, les orthodoxes, les luthériens. Autant dire que des millions et des millions de personnes la connaissent, hormis ceux qui sont ici. Qui la connaissait? Juste par levée de main. D'accord. Alors que nous allons voir dans 15 jours un séminaire sur la prière avec Yann Newberry, je vous propose aujourd'hui de voir ce que nous enseigne Jésus à travers cette prière et à travers ces premiers versets, cette première partie. Nous allons essayer de voir un peu au-delà de cette forme de répétition mécanique qu'on peut avoir, cette répétition mécanique que peut représenter ce passage, cette récitation que l'on fait souvent lors des cultes, que ce soit en communauté ou des cultes personnels. Alors notre passage ici commence par ces premiers mots de Jésus, donc au chapitre 9, au tout début. Alors là, c'est « Priez donc ainsi » ou dans d'autres versions, « Voici donc comment vous devez prier ». Alors s'il nous dit ça dans ce verset, c'est qu'il y a eu tout un enseignement juste avant sur la manière de prier, justement. Et ça commence au verset 5, lorsque Jésus dit de ne pas imiter les hypocrites qui prient pour être bien vus, mais qu'il faut plutôt prier dans le lieu secret, là où Dieu entendra. Ensuite, Jésus continue au verset 7, lorsqu'il dit que nous n'avons pas à rabâcher des tas de paroles. Vous savez, quand on parle à une personne qui soit avance un petit peu en âge, soit ne veut tout simplement pas écouter, même s'il est jeune, les enfants, par exemple. Parfois, il faut répéter plusieurs fois les choses de manière audible et forte pour que cette personne entende, pour que cette personne comprenne et pour que cette personne fasse ce qu'on lui dit de faire. Par exemple, ça fait peut-être des mois que vous courez après votre conjoint pour qu'il change cette ampoule grillée depuis un an. Peut-être que vos enfants laissent traîner tout le temps leurs affaires partout dans la maison. Peut-être que votre opérateur téléphonique n'a toujours pas réglé votre souci de connexion Internet et vous êtes obligé de rabâcher pour vous faire entendre. C'est normal, c'est tout à fait normal. Nous sommes humains. Mais Dieu, lui, il n'a ni problème d'audition, ni trouble de l'attention pour qu'on ait à répéter sans cesse les choses dans nos prières. Et il ne va pas se dépêcher non plus parce que, visiblement, on a un agenda très serré, qu'on a besoin d'une réponse immédiate, quitte à ce qu'on insiste un peu. Allez, Seigneur, fais comme ça. Jésus poursuit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, puisqu'il sait déjà nos besoins avant qu'on demande, est-ce qu'on doit cesser de prier? Non. Par la prière, on exprime notre besoin et notre dépendance à Dieu. Et Jésus, d'ailleurs, poursuit dans son discours en disant « Voici donc comment vous devez prier ». Autrement dit, priez et faites-le de cette manière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons ici quelque part deux constats suivis de trois requêtes. Ce modèle de prière que Jésus a enseigné ne commence pas par des demandes personnelles. Donne-moi ci, donne-moi ça, il me manque ci, il me manque ça. Elle commence par installer quelque part un décor. Le Notre Père qui est aux cieux nous rappelle que nous nous adressons à Dieu le Père. Premier constat. Un Dieu qui est souverain. Deuxième constat. Notre Père qui est aux cieux. Le psaume 115 au verset 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Il fait tout ce qu'il veut, non pas parce qu'il est un dictateur, mais parce que c'est le créateur de toutes choses, toi, moi y compris, et que rien n'échappe à sa volonté, ta vie et ma vie y compris. Tout ce qui est magnifique, mais tout ce qui est illogique et incompréhensible dans la grâce est exprimé ici par ces quelques mots. Notre Père qui est aux cieux, le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, à qui rien n'échappe, le Tout-Puissant, ce Dieu-là, il est aussi, par le moyen de la grâce accordée en Jésus-Christ, celui que je peux appeler Papa, mon Père. Alors, chers amis, lorsque nous prions, nous ne nous adressons pas à quelqu'un de distant du fait de ses fonctions, de son rang, de son statut. On ne pourrait pas parler comme ça directement au président de la République, par exemple. Nous nous adressons à notre Père, si tant est que nous ayons accepté son salut en Jésus-Christ. Souvenons-nous également que nous ne nous adressons pas à notre pote, à qui on ferait des tapes dans le dos, ou que nous charrions à tout va, ou que nous parlons avec une manière irrespectueuse. Non, nous nous adressons au Créateur du ciel et de la terre, au Dieu souverain, tout-puissant, au Dieu saint. Voilà donc les deux constats qui installent le décor lorsque nous prions. Nous nous adressons à Dieu, Créateur de l'univers, mais à ce Dieu aussi, qui est notre Père. Ensuite, nous avons une première requête. Que ton nom soit sanctifié. Alors, il me semble qu'elle est centrale. Centrale parce que cette requête peut être à la fois une cause des deux suivantes, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, mais peut être aussi la conséquence des deux suivantes. Autrement dit, lorsque le nom de Dieu est sanctifié, son règne vient et sa volonté est faite. D'autre part, lorsque son règne vient et sa volonté soit faite, alors son nom est sanctifié. Cette phrase « que ton nom soit sanctifié » pourrait nous faire penser que la sanctification de Dieu, donc Dieu lui-même, dépendrait de nous. Que finalement, Dieu n'est saint que si on le sanctifie. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Dieu, il est saint de nature, donc son nom est saint. Alors pourquoi, en fait, pourquoi demander à ce que son nom soit sanctifié? Est-ce que ça aurait la même signification que notre sanctification à nous, qui est un processus et qui aboutira lorsque nous serons en présence du Seigneur? Alors, c'est pas tout à fait ça. Sanctifier signifie plutôt ici considérer comme saint, adoré, honoré et par extension accorder la première place, aimer ou encore chérir. Est-ce que son nom est toujours sanctifié dans ma vie? Est-ce que Dieu prend toute la place dans mon cœur? Est-ce que je l'aime par-dessus tout? Alors c'est à chacun de répondre à cette question. Je ne sais pas quelle sera votre réponse, mais la mienne n'est malheureusement pas un oui tout le temps. Malheureusement. ce « que ton nom soit sanctifié », ce n'est pas un constat. Jésus ne dit pas « ton nom est déjà sanctifié, ton règne vient déjà, ta volonté est déjà faite ». Non, c'est une requête. En faisant le constat aujourd'hui dans notre monde, on voit que malheureusement, le nom de Dieu est écrasé, il est foulé aux pieds, il est malmené, il est même utilisé à tort. On peut aussi faire le constat sur notre vie personnelle. Le nom de Dieu n'est toujours pas honoré. Et même parfois, on a un peu honte de dire que Dieu est notre Père. Que ton nom soit sanctifié n'est donc pas un constat, mais une requête. Et on pourrait le paraphraser ainsi. Que mon cœur soit enclin à t'adorer, à t'honorer, à te chérir, à t'aimer par-dessus tout. Que tu aies la première place dans mon cœur, que tu sois ce que j'ai de plus cher, parce que tu es Dieu. Plus tard, d'ailleurs, dans cet évangile même de Matthieu, au chapitre 22, Jésus dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Cette requête est centrale parce qu'elle demande un changement dans le cœur même de celui qui prie. Nous ne pouvons pas, par nos propres moyens, aimer de tout notre cœur le Seigneur, l'honorer, le chérir. Nous ne pouvons pas changer notre cœur par nous-mêmes. Nous avons besoin de Dieu. Nous lui exprimons notre dépendance et notre volonté de lui plaire, pardon, à travers cette requête. Dieu, j'ai besoin que tu prennes la première place dans mon cœur. J'ai besoin de t'aimer davantage. Transforme mon cœur pour que je puisse t'adorer de plus en plus. Voilà pour cette première requête. La seconde qui suit est « Que ton règne vienne ». Ici aussi, c'est peut-être une requête qui est un peu mystique, qui est un peu mystérieuse. Personnellement, je ne me suis jamais posé la question avant, quand j'entendais le Notre Père. Qu'est-ce que ça signifiait? C'était quelque chose qui est dit, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire, que ton règne vienne? Un règne, c'est une souveraineté sur un royaume. Donc, ça implique un souverain, des sujets, et une loi qui régit tout ça. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la définition de tous les mots, mais de manière assez succincte, on pourrait paraphraser cette requête comme ça, que le monde entende ton message et que beaucoup soient ajoutés aux âmes sauvées. Alors, uniquement dit comme ça, ça peut être compris comme une prière de bon chrétien qui a suivi l'école du dimanche, qui était assidu. Mais lorsqu'on le rattache à la requête précédente, ça prend un engagement, un sens un peu plus engageant. Que mon cœur soit enclin à t'adorer et te chérir par-dessus tout. Ainsi, conduis-moi vers ceux qui ne font pas encore partie de ton royaume, pour que je puisse leur parler de ton nom et qu'ils puissent eux aussi t'accorder la première place dans leur cœur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Si le nom de Dieu est sanctifié dans ton cœur et dans ta vie, alors tu auras aussi le désir que ton prochain fasse partie du peuple de Dieu, sous son règne. Et par là, le règne de Dieu viendra. On arrive ensuite à la troisième requête de cette première partie. Que ta volonté soit faite sur terre et comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il veut que je mange chaud ou froid aujourd'hui? Est-ce qu'il veut que je mette telle ou telle chose? Ce n'est pas forcément ça. Alors on pourrait aussi ici en parler durant des heures, mais s'il fallait résumer la volonté de Dieu en quelques mots, on pourrait prendre ces paroles de Jésus, toujours dans l'évangile de Matthieu, un peu plus loin dans notre passage, toujours au chapitre 6, mais au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Autrement dit, fais ce qui plaît à Dieu. Soumets ta volonté à la sienne, comme Jésus l'a fait durant sa vie, quand il disait par exemple, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » On a notre volonté, on a la volonté de Dieu, soumettons la nôtre à la sienne. Je vais conclure. Souvent, par nature, même très très souvent, nous avons tendance à nous mettre un peu au centre de l'univers. Alors les amis, au lieu de nous regarder le nombril et de dire dans nos prières, « Seigneur, j'ai besoin de ci, je manque de ça, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Je veux que tu fasses comme ça, parce que je sais que c'est ce qui me convient, et c'est ce qu'il me faut, et j'en ai besoin là, maintenant. » Au lieu de dire ça, rappelons-nous à qui nous nous adressons. Nous parlons au Créateur de l'univers, mais qui est aussi notre Père. Demandons-lui de changer nos cœurs pour qu'au lieu de considérer notre petite existence en premier, nous puissions l'adorer et le chérir plus que tout. Demandons-lui de nous mettre à cœur, de partager l'Évangile pour que son règne s'étende. Demandons-lui que notre volonté soit toujours soumise à la sienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que cette magnifique prière du Notre Père, dont nous avons vu la première partie aujourd'hui, ne devienne pas une sorte de formule magique ou d'incantation, ou ne soit pas non plus un récit appris par cœur de manière assez creuse et sans réelle utilité, mais qu'elle reprenne du sens et de la clarté dans nos cœurs. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu es. Nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire chaque jour. Merci pour cette prière que Jésus nous a montrée et qui nous rappelle que nous nous adressons à celui qui a créé l'univers, au Dieu créateur, mais un Dieu qui s'est rendu aussi accessible à nous à travers Jésus-Christ et que nous pouvons appeler aujourd'hui Papa. Merci Seigneur parce que tu nous guides, tu nous aides et tu veux chaque jour que nous nous attachions à toi, que nous te mettions à la première place. Mais nous savons Seigneur que ce n'est pas toujours le cas et que nous avons besoin de toi pour cela. Alors veuille nous accompagner, nous guider dans cette voie. Et Seigneur, que ça puisse aussi nous aider à partager cet amour que tu as pour nous, que tu nous as donné, que tu nous as manifesté, que nous puissions le partager à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui ne font pas partie de ton royaume. Et Seigneur, que nous ayons aussi ce désir de soumettre notre volonté à la tienne, et que, Seigneur, nous te considérions avant toute chose. Merci pour ces moments que nous partageons entre frères et sœurs, et voilà, on te remet nos cœurs à chacun, tu nous connais, tu sais de quoi nous sommes faits, Alors Seigneur, nous te faisons confiance pour la vie que nous allons mener chacun avec toi. Au nom de Jésus. Amen.